ministre des Finances a reconnu d'une certaine manière lundi, en annonçant sa démission, une forme d'échec des mesures dont il était un peu l'incarnation, le porteur, celui qui d'ailleurs concentrait une bonne part de l'hostilité de l'opinion. Il était identifié comme l'homme qui avait mis en œuvre l'austérité et toutes ces mesures de rigueur. Pour le ministre des Affaires étrangères, il y a une tonalité, une composante politique plus prononcée dans la mesure où, de toute évidence, il y avait des tensions, on va dire, entre le parti minoritaire de la coalition, le CDS, Parti Populaire, en l'occurrence Paulo Portas, qui avait obtenu des responsabilités imminentes comme ministre des Affaires étrangères, et le parti majoritaire, le Parti Social-Démocrate. Ça, c'est le premier volet, la première composante. Et donc, c'est un peu la traduction concrète des divergences qui s'accumulaient ces derniers temps. Et puis aussi, peut-être, ça a été évoqué avec cette démission un peu surprise aussi, le fait que Paulo Portas ait mal vécu la promotion, entre guillemets, au rang de ministre de l'économie et des finances, de celle qui était jusque-là l'adjointe du ministre de l'économie. Donc il y a vu peut-être une forme de blessure personnelle, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Pour revenir sur les divisions dont vous parlez, est-ce que vous avez comme ça à l'esprit un ou deux exemples ?
Un des points saillants qui est évoqué depuis plusieurs semaines, c'est la vigilance extrême manifestée par le Parti populaire, donc Paulo Portas, à l'égard de la problématique des retraites, hein, pour que les retraites ne soient pas trop touchées, concernées par ces mesures d'austérité. Il s'agit de trouver 4,5 milliards d'économies supplémentaires. On sent bien que c'est une coalition aujourd'hui très fragile face à l'impopularité croissante dont font l'objet les mesures d'austérité décidées par le gouvernement. Donc pour preuve, les manifestations qui se sont multipliées, notamment jeudi dernier, cette grève générale qui a signifié l'isolement croissant du chef du gouvernement. Cette crise est d'autant plus préoccupante que dans quelques jours, les représentants de la fameuse Troïka seront à Lisbonne pour faire le point, pour examiner un peu la situation. Ceci était déjà venu fin avril, début mai, déjà un moment où les tensions étaient vives, puisque c'était le moment où, peu de temps avant, la Cour constitutionnelle avait invalidé un certain nombre de mesures qui avaient été décidées par le gouvernement, des mesures d'austérité.
Il y a quelques semaines, le président du Portugal avait affirmé qu'il fallait d'abord miser sur la stabilité politique. Il n'était donc pas question de dissoudre, comme le demande par exemple la gauche ou certains syndicats, le Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut changer avec justement cette coalition très fragilisée ?
Effectivement, c'est la grande question. Il faut bien prendre conscience que ni le chef du gouvernement, ni le président de la République n'ont formellement accepté et compris la démission du numéro 2 du gouvernement, Paulo Portas. Mais celui-ci indiquait que sa décision était irrévocable. Donc ça provoque de fait une crise. Et la meilleure preuve, le responsable, le premier secrétaire du Parti Socialiste, donc chef de l'opposition, a demandé un rendez-vous en urgence auprès du chef de l'État, le président de la République. Donc est évoquée l'hypothèse de passer de nouveau devant les électeurs et de provoquer des élections législatives anticipées. Alors le chef de l'État avait depuis de nombreux mois non seulement apporté son soutien, malgré le rôle d'arbitre, hein, qui est le sien, normalement, au-dessus des partis, avait aménagé son soutien au gouvernement et à son chef du gouvernement. Donc il se retrouve évidemment placé, on pourrait dire, sinon en première ligne, mais dans une situation qui n'est pas simple.
En cas de nouvelle élection, ça ne devrait pas s'améliorer, mais peu importe les partis, est-ce qu'aujourd'hui, les politiques peuvent-ils encore se désolidariser justement de la colère de la rue au nom de mesures imposées par la Troïka ?
C'est le sujet de fond hein, qui est effectivement posé, c'est-à-dire que la démission du ministre des Finances l'a clairement signifié. Ce qui était en cause, c'était une forme de jusqu'au boutisme, sinon d'autisme, on dit certains, de fermeture à la colère de la rue, et après 2 ans de mesures extrêmement rudes, hein, qui laissent le peuple portugais dans une situation extrêmement inquiétante, ça pose le problème du déphasage, du découplage d'une partie de la classe politique à l'égard de la réalité du terrain. Et de ce fait, Paulo Portas, qui est un politique, sent bien que l'opinion est extrêmement aujourd'hui braquée contre toutes ces mesures. Donc il y a une dimension politique qui est en train de reprendre le dessus.
Est-ce qu'il y a, comme dans d'autres pays européens, au Portugal, alors là je pense par exemple à la France, mais aussi à l'Italie, est-ce qu'il y a déjà une radicalisation politique? Est-ce que les extrêmes gagnent du terrain?
Pour le moment, au Portugal, c'est moins présent, c'est moins net, puisqu'on n'a pas, à l'image de pays comme la Grèce, des formations extrémistes à caractère fascisant qui occupent le devant de la scène. Il faut voir qu'au Portugal, il y a 2 ans, lorsque les premières mobilisations se sont opérées, elles étaient très largement le fait de mouvements non politiques ou non syndicaux, organisés et régulés par le biais des réseaux sociaux. Les choses, évidemment, ont évolué avec, d'une part, une politisation croissante. L'opposition au gouvernement s'est fortement mobilisée, a dénoncé au fil des mois les mesures qui étaient prises. Et puis, cette volonté de contenir aussi toute forme de dérive extrémiste. Alors, faut-il y voir le fait qu'on est 40 ans ou presque après la révolution des œillets, donc la chute de la dictature? Il y a eu, pendant ces 40 années, des avancées nombreuses, grâce notamment à l'entrée en Europe. Donc, ce sont des amortisseurs sociaux qui ont pu se mettre en place et qui ont, jusqu'à présent, permis de tenir. Autre élément qui renvoie à une histoire longue concernant le Portugal, c'est une forme de soupape de sécurité, entre guillemets, le mot est mal choisi, concernant l'immigration. De nouveau, on a vu se multiplier les signes du départ, et notamment au sein de la jeunesse, qui ne voit pas d'autre alternative, d'autre solution à la crise qui sévit que de tenter sa chance de partir à l'étranger. Donc on voit bien que ce rôle d'amortisseur social qui a pu être rendu possible grâce aux forme d'État-providence qui s'est développée ces 30 dernières années, et d'autre part, la montée en puissance de l'immigration a eu tendance à atténuer, à réguler le système. Mais pour combien de temps encore ?